Merci d'écouter Radio Capi. C'est l'heure de vous informer.
Radio Capi.
Blaise Jordan Shindani Kambala.
Mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire de ce journal, Coupe du Monde 2026, la RDC en fête de Goma à Bunia, une joie historique qui unit les Congolais malgré les défis sécuritaires et sanitaires. Oicha, panique nocturne face à la menace ADF. Des coups de feu provoquent un déplacement de la population. Le maire appelle au calme et à la vigilance. Ituri, recrudescence des attaques des ADF à Mambasa. L'administrateur du territoire, le colonel Jean-Baptiste Mwampanzi, qui est l'invité de ce journal, dresse un état des lieux d'une insécurité qui paralyse les activités sociales et économiques. Encore une fois, bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue à ce journal dominical de la mi-journée. Au Nord Kivu, la ville de Goma vibrait après la qualification des Léopards ce dimanche sur les scores de 3-1 face à l'Ouzbékistan aux USA. C'était le dernier match de la phase de groupe à la Coupe du Monde 2026. Au coup de sifflet final, les Gomatraciens, malgré l'heure tardive, ont descendu dans la rue pour manifester leur joie. Berdani Diambou nous fait revivre l'ambiance qui a prévalu les rues de Goma.
Depuis 4 heures jusqu'à 6 heures du matin, des scènes ont été observées sur les différentes artères de la ville. Les jeunes de tous les quartiers poussaient des cris de joie en scandant des chants et exhibant les pas de danse pour célébrer la qualification des Léopards. Parmi les manifestants, on pouvait aussi voir des femmes. Des jeunes se sont déchaînés pour saluer cette prouesse historique des Léopards dans une phase finale de la Coupe du Monde. Viva, viva, je suis fier de mon pays. Personne ne peut nous diviser ainsi, a martelé ces jeunes rencontrés sur la route déjà fatigués après avoir parcouru un long trajet à pied. Mais c'est le cas jusqu'à la grande barrière au centre-ville en courant.
Je suis fier du résultat. Disons merci au bon Dieu, au staff. Et aux joueurs qu'ils continuent. On est content que le football nous unit parce que c'est ça qu'on voulait.
Le football envoie un message fort. Les populations du Nord Kivu aspirent à l'unité, à la cohésion nationale et à la paix. Il faut dire qu'au-delà du contexte actuel de la guerre qui traverse la province du Nord Kivu, la population de Goma a partagé les mêmes émotions, la même joie et la même passion du sport avec le reste du pays. Goma, Bernardine Diambo, Radio Capi.
Dans le même registre à Nitouri, des scènes de liesse ont été observées jusqu'au petit matin dans plusieurs quartiers de Bunia après la qualification de l'équipe nationale de la RDC pour les 16e de finale de la Coupe du Monde à l'issue de sa victoire sur les loups blancs de l'Ouzbékistan. Pour de nombreux habitants, cette victoire a offert un rare moment de joie dans une province marquée par l'insécurité et l'épidémie d'Ebola. Reportage d'Isaac Remoyope.
Dans plusieurs quartiers de Bunia, des centaines de supporters ont suivi la rencontre entre la RDC et l'Ouzbékistan. Certains ont regardé les matchs à domicile, tandis que d'autres, faute d'électricité, d'écran ou d'abonnement, se sont rendus dans des salles de projection ou des bars, parcourant plusieurs quartiers pour vivre ces rendez-vous sportifs. Tout au long de la rencontre, les supporters ont laissé éclater leur joie à chaque but de Léopard. Au coup des sifflets finaux, des groupes de jeunes sont descendus dans les rues, à chantant et à célébrant la qualification historique de la RDC. Pour beaucoup d'habitants, cette qualification est un moment historique que leur génération n'avait jamais connu. Déplacés de guerre, commerçants, conducteurs de taxis, fonctionnaires et autres habitants ont célébré ensemble cette victoire qui leur a permis, le temps d'une soirée, d'oublier les souffrances liées à l'insécurité et au stress provoqués par l'épidémie d'Ebola. Témoignage de plaisir Nzigi.
Ça a été émotionnel, ces moments de joie. C'est jamais vécu au fait. Si on est parvenu à gagner quand même une équipe européenne, vraiment. C'est un honneur, en fait. Quand on a des occasions pareilles, on ne veut pas gâcher. En fait, pour essayer un peu d'oublier ce qui se passe là où il y a la guerre.
Selon la police nationale congolaise, aucun incident majeur n'a été enregistré durant les célébrations. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Capi.
Le sélectionneur national de Léopard Football, quant à lui, s'est dit satisfait de la prestation de ses joueurs qui ont redonné de la joie au peuple congolais après leur victoire sur les loups blancs de l'Ouzbékistan. Sébastien Desabres l'a fait savoir en conférence de presse d'après-match qui a vu la RDC se qualifier pour les 16e de finale de la Coupe du Monde 2026. On écoute Sébastien Desabres dans cet extrait sélectionné par Jean-Gandou Kabongo.
On a pris un but un peu tôt dans la partie, mais comme dernièrement contre le Portugal ou même contre le Nigeria en phase de qualification, on a su rebondir et on a mis beaucoup d'abnégation, beaucoup de motivation. Et je pense que au niveau de la physionomie du match, la victoire est logique. Je pense que c'est un exploit qu'on a fait et pour nous, le plus important, c'est qu'on a montré encore une belle image du Congo. Je voudrais rendre hommage à mes joueurs, à l'ensemble de mon staff qui travaille quotidiennement à mes côtés. Ce qui est sûr, c'est que on a fait une erreur à l'intérieur, on a ouvert l'intérieur un peu trop tôt sur le but tactiquement. Et puis il y a une belle finition de leur attaquant, faut reconnaître que c'est un très bon joueur. Mais après, on avait décidé depuis maintenant le début de la compétition de laisser quelques joueurs pour avoir de la fraîcheur sur le troisième match qui nous semblait accessible. C'est ce qui s'est passé. Les joueurs qui n'avaient pas participé aux deux premiers matchs ont amené beaucoup de fraîcheur à mon équipe. Je pense que c'est assez logique qu'on s'impose au vu de la possession et de la prestation proposée.
Autre actualité, c'est la publication ce dimanche des résultats de l'examen d'État édition 2025-2026 pour la province éducationnelle au Katanga 1. Comme à l'accoutumée, l'ambiance a été au rendez-vous. Les heureux récipiendaires sillonnent différentes artères de Lubumbashi pour exprimer leur joie. Signalons que l'ambiance de l'examen d'État de cette année s'est mêlée avec celle de la victoire historique de Léopard à la Coupe du Monde de football. Paul Mounanga nous fait le point.
C'est vers 2h du matin que des sifflets et vuvuzela ainsi que des cris de joie ont commencé à se faire entendre dans la ville de Lubumbashi. À 7h, il y a les matchs de football qui opposent la RDC à l'Ouzbékistan pour le compte de la Coupe du Monde de football. Avec la victoire de la RDC, les Congolais sont descendus dans la rue pour exprimer leur joie et se sont retrouvés avec les élèves qui étaient en exaltation après avoir reçu les messages de leur réussite sur les réseaux de communication. Quelques élèves expriment leur joie.
De réussir, j'ai obtenu mon diplôme avec 64%, je suis très contente. Je tiens à remercier d'abord Dieu, remercier mes parents et aussi les profs pour leur effort. Et je suis aussi contente parce que ça n'a pas traîné. Déjà, on a fini les examens le jeudi et puis après une 48 heures, on a publié, donc je suis très contente.
Je viens d'obtenir mon diplôme avec 52%, je suis très heureuse. C'est un jour festif, nous avons fêté avec mes amis, c'est vraiment une grâce pour nous.
Ça a été pour moi, je me suis en sorte.
Signalons que le Centre national de correction de l'examen d'État en tête du Haut-Katanga a été inauguré lundi dernier à Lubumbashi, jour du lancement de la session ordinaire de l'examen d'État par la ministre de l'Éducation nationale. Lubumbashi, Paul Mounanga, Radio Okapi.
Province du Lualaba. L'ONG Erapin Aisbel plaide pour la mise en place des mesures d'encadrement dans le processus de correction de l'examen d'État. Dans une déclaration accordée ce dimanche à Radio Capi, le coordonnateur national de cette organisation a exprimé son inquiétude face à la multiplication des centres de correction dans plusieurs provinces du pays. Selon lui, si cette multiplication permet d'accélérer le processus de correction des copies, elle nécessite toutefois un encadrement rigoureux. L'objectif et de prévenir d'éventuels cas de fraude et de favoritisme susceptibles de contribuer à la détérioration du système éducatif en République démocratique du Congo. Les propos d'Albert Ibonga ont été recueillis par Paul Mounanga.
L'ONG est rapide, salue les réformes et innovations que le gouvernement congolais est en train de mettre en place dans ce secteur par le truchement du ministère de l'Éducation nationale, notamment la décentralisation de la correction de ces épreuves par la régionalisation des centres de scannage afin de favoriser l'accélération de la correction et la réduction du délai de publication de résultats. Cependant, Erapin Aisbel fait observer au ministère de l'Éducation que cette approche de régionalisation de la correction doit être suivie par des mesures d'encadrement afin de ne pas consacrer des pratiques de correction à l'outrance de ces épreuves. Le favoritisme Erapin Aisbel suggère pour rendre ces réformes et innovations sérieuses, efficaces et rationnelles que le ministre de l'Éducation nationale devait prendre un acte décisoire à transférer les copies, par exemple, de l'espace Grand Katanga pour être corrigées dans l'espace Grand Équateur et celle de la ville province de Kinshasa pour, par exemple, être corrigées à Kisangani. Cela pour favoriser et promouvoir le critère de méritocratie et cimenter son caractère national.
Je le disais en titre, dans la ville d'Oicha, située à une trentaine de kilomètres de Beni, un déplacement de population a été observé la nuit dernière dans la partie ouest de cette ville, à l'origine des coups de feu entendus pendant plus d'une trentaine de minutes. Craignant une incursion des rebelles des ADEF, plusieurs habitants ont fui leur domicile pour se réfugier vers le centre-ville. Le maire de la ville appelle toutefois la population au calme et à la vigilance. Faustin Silouere, maire de la ville d'Oicha, est au téléphone de Marc Marofimbo.
Certes, il y a un crépitement de bas dans la ville d'Oicha, dans le quartier Bakaïko, vers 2h du matin. Selon les informations en notre possession, il y aurait confusion entre le service de sécurité, faute pour eux de ne pas avoir un mot de passe commun. Voilà ce qui remet à cause, bien sûr, d'une éventuelle incursion des ADF. Il faut noter également que cette confusion a entraîné les déplacements massifs de la population, avec bien sûr toutes les conséquences relatives. Les services de sécurité au pied d'œuvre pour prévenir toute éventuelle attaque de l'ennemi, tout en demandant également à la population de rester calme, de rester trop vigilante et de ne pas céder aux rumeurs susceptibles d'alimenter des psychos.
Dans le territoire de Mambasa, à 174 km à l'ouest de Bunia-Ituri, la faible couverture des réseaux de téléphonie mobile constitue un sérieux défi sécuritaire face aux attaques des ADF. Faute de réseaux fiables, les mécanismes d'alerte précoce fonctionnent difficilement, ce qui retarde souvent l'intervention des forces de sécurité pour protéger les populations civiles. Réunis jeudi à Mambasa, les chefs coutumiers des 7 chefferies du territoire ont plaidé pour l'installation de nouvelles antennes de télécommunications afin d'améliorer la sécurité dans leur localité. Le point avec Isaac Remoyope.
Dans plusieurs villages de 7 chefferies du territoire de Mambasa, les plus vastes de la province de l'Ituri, la couverture des réseaux de télécommunications est très faible, voire inexistante. C'est notamment le cas de la chefferie de Walese Bessé. Les 21 villages de 7 chefferies ne disposent d'aucun réseau de téléphonie mobile. Cette situation facilite les incursions des ADF qui peuvent mener leurs attaques sans être rapidement signalés. Le chef de la chefferie de Walese Bessé, Faustin Soukari, témoigne.
Dans toute la chefferie, il n'y a pas de réseau. J'avais installé le wifi, mais les ADF sont venus voler. Pourtant, c'était notre seul moyen de communication.
Dans d'autres chefferies, seules quelques grandes agglomérations bénéficient d'une couverture à réseau, mais celle-ci reste très faible. Lors de la dernière attaque contre les villages des Bahaha, des rescapés ont dû parcourir près de 10 km à pied pour capter un signal téléphonique et alerter les FARDC.
L'incursion qui est entrée à Bahaha, il n'y a pas réseau. Faire 10 km, 15 km, aller chercher les réseaux pour communiquer. Et l'alerte était arrivée en retard. Heureusement qu'il y a eu l'intervention des militaires qui étaient là, qui ont essayé quand même de délimiter les dégâts.
Les sociétés de téléphonie mobile avancent des raisons sécuritaires qui les empêchent de déployer leurs équipes techniques à l'intérieur de la province. De retour de Mombasa, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Province du Kasaï central, le groupement de Ngalakaji, situé en périphérie de Kananga, une quinzaine de kilomètres de la ville, est dépourvu de structures sanitaires. La population y éprouve d'énormes difficultés pour accéder aux soins. Les femmes enceintes sont contraintes de parcourir de longues distances pour accoucher, une situation qui expose mère et nouveau-né à de nombreux risques favorisant ainsi les décès infantiles. Pour remédier à cette situation, un bienfaiteur a lancé un projet de construction d'un centre de santé moderne dans la localité. Les détails avec André Katende Ngalamurume.
À Ngalakaji, l'offre de soins est quasiment inexistante. Ni centre de santé, ni maternité pour des milliers d'habitants. L'établissement le plus proche se trouve à Mwambambui, à plus de 5 km. Pour se faire soigner, les habitants doivent marcher pendant de longues heures. Faute d'alternatives, certains recourent aux plantes médicinales, d'autres à l'automédication. Marcel Kadima, représentant du chef du groupement, décrit une situation préoccupante. Les femmes enceintes sont le plus exposées. Accoucher exige souvent de longues heures de marche, ce qui pousse certaines à donner naissance à domicile. D'autres n'atteignent même pas le centre de santé. Il arrive qu'elles accouchent en chemin, au risque de perdre leur bébé, à l'instar d'Élisée Mouchia, qui en garde un souvenir douloureux.
Je me rendais à Mwambambui pour accoucher, arrivé en Panga, en pleine brousse, j'ai mis au monde. Faute de sage-femme, mon bébé est mort.
Face à cette cette réalité, une fondation caritative a lancé les travaux de construction d'un centre de santé moderne dans la localité. Les travaux sont prévus pour durer 4 mois. Cette infrastructure permettra notamment aux habitants de se rapprocher des services de santé et de bénéficier des soins de qualité, a indiqué les représentants de la fondation. Kananga, André Katendenga Lamouloumé, Radio Kapi.
L'Assemblée provinciale de Lomami recommande la suspension du maire de Kabinda ainsi que de 4 bourgmestres de la ville. La résolution a été adoptée jeudi dernier au terme d'une plénière consacrée à l'examen de plusieurs dossiers liés à la gouvernance provinciale, à l'administration publique et à la gestion des finances locales. Les élus reprochent aux autorités urbaines des irrégularités dans la collecte des taxes. Mais, selon les experts en droit administratif, une telle recommandation ne constitue pas à elle seule une base légale de suspension. Des explications avec Esther Ndalafina.
Au cours de cette séance, les députés provinciaux ont longuement échangé avec le ministre provincial de l'Intérieur et le maire de Kabinda, invités à fournir des éclaircissements sur la gestion des taxes, l'installation des barrières et les tensions récurrentes entre les services percepteurs et les contribuables. Le ministre de l'Intérieur a rappelé que son rôle se limite à la sensibilisation des contribuables afin qu'ils s'acquittent de leurs obligations envers les services de l'État. Il a toutefois reconnu la persistance des barrières illégales qu'il affirme tenter de démanteler sans réel succès jusque-là. De son côté, le maire de Kabinda a expliqué que le fonctionnement de l'administration urbaine repose essentiellement sur les recettes fiscales et parafiscales prévues par les textes en vigueur. Elle a reconnu certaines irrégularités qui doivent être corrigées. Toutefois, l'autorité urbaine a exprimé son regret face à son audition par les députés provinciaux, rappelant qu'elle est nommée par ordonnance présidentielle. Cette déclaration a suscité la colère des élus locaux. Les députés ont rapidement réclamé la suspension du maire par le gouverneur de province, dont la décision est désormais très attendue. Cependant, selon plusieurs experts en droit administratif, le gouverneur ne dispose pas du pouvoir de suspendre ou de révoquer directement et de manière définitive un maire sur la seule base d'une recommandation de l'Assemblée provinciale. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Les 16e de finale de la Coupe du Monde 2026 débutent ce dimanche 28 juin par un inattendu Afrique du Sud-Canada et prennent fin sur un prometteur Colombie-Ghana le samedi 4 juillet. Le champion en titre, l'Argentine, va croiser la route de la surprenante équipe du Cap-Vert, tandis que l'équipe de France croisera les fers avec la Suède. Le Maroc va défier les Pays-Bas au moment où le Sénégal se frottera à la Belgique et l'Algérie à la Suisse. Sans oublier que la République démocratique du Congo croisera les fers avec l'Angleterre.
L'invité.
En Ituri, le territoire de Mambasa est confronté depuis janvier 2026 à une recrudescence des attaques attribuées aux ADF. Selon les autorités locales, ces violences touchent l'ensemble des chefferies de ces vastes territoires qui couvrent près de la moitié de la province. Cette insécurité perturbe fortement les activités économiques, sociales, sanitaires et éducatives. Malgré les opérations menées par les autorités de l'état de siège pour rétablir la sécurité, la situation demeure préoccupante. L'administrateur du territoire de Mambasa, le colonel Jean-Baptiste Mwapanzi, dresse un état des lieux de cette partie de la RDC dans cet entretien accordé à Isaac Remoyope.
Monsieur l'administrateur du territoire, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste.
Quelle est la situation sécuritaire qui prévaut actuellement dans votre entité, fortement affectée par l'activisme des rebelles à ADF?
Nous sommes en train de passer des moments un peu d'accalmie précaire. Mambasa a été bousculé, c'est depuis le mois de janvier passé. Tout au début de l'année, nous avons connu des attaques difficiles à gérer. On a perdu des militaires dans le triangle de la mort communément appelé Banzou-Banzou. Quand vous allez vers la RN4, tout ça, il y a des militaires qui sont tombés, 13 militaires. Nous sommes allés vers le mois de février-mars. On a encore connu des cas vers Mouchacha, vers Babessoua, vers Bafouakoa. C'est parti jusque vers fin mai à peu près. Mais c'est à peu près entre mai et juin ici qu'il y a une petite accalmie précaire, mais nous avons notre armée qui est derrière et qui est en train de préparer des opérations de grande envergure pour traquer cet ennemi jusqu'à le neutraliser.
Les ADF sont actifs sur plusieurs axes routiers du territoire. Quelles sont les conséquences de leur présence sur les vécus quotidiens de la population? Parce qu'actuellement, on signale leur présence pour que c'est tous les axes.
Évidemment, en territoire de Mambasa, nous trouvons présence des ADF dans toutes les chefferies. Quand l'ennemi, l'ADF, quitte les Rumu, il traverse la RN4 pour aller par la rivière Ituri et se retrouver de l'autre côté dans Walesekar au nord et Walesedese. Donc toutes les chefferies ont été touchées dans cette période ici de 6 mois. Alors dans la vie de la population, c'est-à-dire la population ne sait plus aller dans les champs. Donc la vie devient difficile dans la cité. Et avec ça, même le véhicule qui vient du nord, d'ailleurs avec le pont qui s'est effondré, donc la vie devient encore très compliquée.
Quelles sont les dispositions qui ont été prises pour renforcer la sécurité de la population et lui permettre de reprendre ses activités normales?
Nous avons notre armée, les forces armées de la République démocratique du Congo, qui travaillent conjointement avec le PDF. Ils ont déjà planifié des opérations de grande envergure. Et on a aussi la MONUSCO qui vient s'ajouter, qui est partenaire privilégié du gouvernement, qui vient aussi s'ajouter. C'est toujours dans le même ordre d'idées, pour rendre la vie de la population aisée, sécuriser cette population qui a tant souffert et qui ne jure que par la paix.
Quel est l'apport de la MONUSCO qui a établi une base opérationnelle mobile dans la zone depuis presque une semaine?
Et la MONUSCO qui vient d'établir une base opérationnelle mobile en territoire de Mambasa il y a une semaine, c'est depuis le samedi passé qu'ils sont arrivés ici. Un apport important, nous le voyons ailleurs, à Irumu par exemple, à Djougou, où la MONUSCO intervient, même par rapport à l'évacuation des blessés par balle. L'apport est important. L'apport est important. Avec son matériel, on a espoir que ça va nous aider.
Quels sont les principaux défis qui restent à relever pour neutraliser les ADF dans cette entité? Parce qu'on nous parle, maintenant on nous dit que les ADF ont installé leur bastion dans plusieurs entités chefferies, comme vous l'avez évoqué.
Le principal défi, c'est d'arriver d'abord à conscientiser notre population, que notre population ait confiance dans son armée et dans le partenaire de l'armée, qui sont l'UPDF et la MONUSCO, qu'on ait confiance en eux, qu'on informe, c'est-à-dire par le système d'alerte, qu'on alerte les autorités militaires, politico-administratives et coutumières au moment opportun pour que l'intervention soit efficace. Il ne faut pas alerter en retard et l'ennemi sera déjà parti. C'est encore un défi important, et c'est parmi tant d'autres défis.
On déplore aussi le faible effectif des FARDC pour contenir la menace.
Tout à fait, oui, la population le déplore aussi. C'est pourquoi nous avons aussi besoin de partenaires pendant que notre armée est en train de se préparer, de se faire une force importante dans la région de Grand Lac et pourquoi pas en Afrique centrale. Nous avons des partenaires qui viennent pour nous accompagner dans ce que nous avons comme problème.
Monsieur le Président, merci.
Je vous remercie aussi plus.
C'était notre invité, le colonel Jean-Baptiste Mwapanzi, l'administrateur du territoire de Mambasa, qui s'entretenait avec Isaac Remoyope. Voilà qui boucle notre journal de la mi-journée, coordonné et supervisé par Jean Gandou Kabongo et mis en onde des mains des maîtres par Pierre Diassinois. Ce journal est à réécouter sur notre site internet www.radiocapi.net.